Europe 1, 10h-11h.
Médiapolis.
Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Bonjour à tous. Oui, c'est Médiapolis qui reprend pour la 14e, 15e, que sais-je, saison. Et avec le grand bonheur de retrouver Catherine Ney. Bonjour Catherine.
Bonjour Olivier, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Bonjour Hervé Gattegnaud.
Bonjour Catherine, bonjour
Bienvenue
Olivier.
Bienvenue dans notre émission, avec plaisir.
Donc en direct avec Catherine Ney, une émission réalisée par Jean-Luc Arblade et préparée par Capucine Patouillet. Et Catherine Ney vient de vous le dévoiler, notre invitée. C'est un grand journaliste qui a été journaliste à ses débuts au journal Le Méridional à Marseille, qui est ensuite côté droit, qui est ensuite passé au Nouvel Observateur, côté gauche, qui s'est retrouvé au Monde, côté centre-gauche, puis au Point, côté centre-droit, donc un journaliste qui s'est pas mal promené. Et puis il est devenu patron de presse, il a pris la direction de la rédaction du Journal du Dimanche en 2016, qu'il cumule maintenant avec celle de Paris Match depuis 2019. Tout ça est exact, Hervé Gattegnaud, puisque tel est votre nom ?
C'est tout à fait exact. Donc vous dites que je me suis promené, j'ai beaucoup travaillé surtout. Oui, oui. Mais dans mon esprit, ça prouve surtout qu'un journaliste ne travaille pas dans des journaux de droite ou de gauche, il fait du journalisme.
Très bien. Voilà qui est utile et on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Exceptionnellement, aujourd'hui, nous n'avons pas de Canteloup pour commencer l'émission puisque notre ami Nicolas Canteloup n'a pas encore repris. Mais nous avons peut-être, de temps en temps, nous allons côtoyer un autre comique nouveau venu sur la scène, Monsieur Jean Castex, Premier ministre, qui ne manque pas d'humour, que cela plaise ou non. Jean Castex, les Français le connaissent encore peu. Catherine Ney l'a évoqué ce matin dans son éditorial de 8h35, c'est ça ?
Oui, c'est ça. 37 ? Oui, on n'a pas d'avis encore. Sur
non.
Le...
Oui. Mais il y a quelqu'un qui a un avis et qui s'est exprimé assez fermement, c'est Michèle Ribirola, maire verte EELV de Marseille et qui attaque le gouvernement sur sa gestion du Covid. C'était ce jeudi sur BFM TV.
Devant vous, vous voyez deux élus, deux femmes politiques que beaucoup de choses séparent sur le plan idéologique, sur notre vision de l'avenir de Marseille. Ce que nous sommes capables de faire, Martine et moi, doit être un exemple pour toutes les femmes et les hommes politiques qui se retrouvent face à cette crise. Et je regrette que le gouvernement ne soit pas capable de travailler de la même manière. Il décide depuis Paris de ce qui serait bon pour notre ville, sans entamer le dialogue nécessaire avec les élus et surtout sans nous donner les moyens de faire respecter les décisions qui sont les leurs.
Alors, c'est particulièrement bienvenu d'avoir invité Hervé Gattegnaud, puisque, sauf erreur de ma part, vous êtes né à Marseille, Hervé.
Alors, c'est une toute petite erreur, je ne suis pas né à Marseille, mais je me considère comme Marseillais, j'y ai vécu, travaillé.
Vous êtes né où alors ?
Je suis né en Lorraine, un peu par accident.
Ah d'accord, oui. Mais, vous avez,
mais alors, je me considère comme Marseillais.
L'enfance était marseillaise. Enfance, adolescence, premier boulot.
Oui, absolument.
Et quand vous entendez la nouvelle maire, Michèle Rubirola, d'ailleurs avec la présidente du conseil départemental, sa rivale pendant les élections municipales.
Martine Vassal.
Martine Vassal, mettre en cause, Martine et moi, comme elle a dit, mettre en cause ensemble, ce qui est quand même assez inédit, une femme relativement à droite, hein, héritière de Gaudin d'un côté, et une écolo dans une alliance de gauche de l'autre, qui ensemble mettent en cause, avec d'ailleurs Raoul dans le décor, la gestion depuis Paris, comment vous commentez ça ?
Malheureusement, moi je trouve que ce n'est pas complètement inédit de voir la classe politique marseillaise se rassembler contre Paris et contre le reste du pays. Vous savez, il y a une culture marseillaise de la rébellion, de la résistance, et c'est souvent un élément fédérateur dans le débat politique marseillais. Moi, personnellement, j'ai beau me considérer comme Marseillais, je ne suis pas chauvin. Et je ne trouve pas par principe que Marseille, c'est mieux que Paris. Et donc, je trouve que, en l'occurrence, ces deux élus sont un peu à côté de la plaque et flattent un peu une habitude, une tradition et presque un instinct marseillais anti-parisien qui est un peu dérisoire quand on mesure les enjeux. Madame Rubirola a oublié de rappeler que le professeur Raoult, qui était juste à côté d'elle, s'était un peu vanté avant l'été d'avoir terrassé la maladie et le virus à Marseille. Aujourd'hui, tous les Marseillais constatent que ça n'était pas le cas. Et je crois que personne à Paris n'avait exigé du professeur Raoult qui raconte des fadaises. Je crois que c'est un peu à côté de la plaque. Et dernier point, vous savez, à Marseille, on a beaucoup l'habitude de critiquer Paris. Mais on est très souvent content que le gouvernement de Paris, comme dit Madame Rubirola, prenne des décisions favorables à Marseille, des plans d'investissement, des plans de soutien. Il est probable que ce sera le cas dans les mois et dans les années qui viennent.
Catherine Ney,
Moi, je ne connais pas assez Marseille pour en rajouter. J'ai vu que tout le monde soutient Raoult, le professeur Raoult, qui est une sorte d'idole, puisque des bougies à son effigie sont vendues dans les boutiques et font la... La joie de ceux qui les vendent. Donc voilà, c'est un peu à part Marseille quand même.
Ah non,
voilà.
Ça c'est clair. Voilà. Moi je peux vous dire, si je vais assister à un match au stade Vélodrome, je n'ai pas intérêt à y aller avec une voiture immatriculée 75, hein, parce qu'alors là, la destruction est quasi assurée.
Oui, et puis on a même eu cet épisode il y a quelques jours, cet épisode assez stupéfiant du préfet nouvellement arrivé qui, impressionné par l'ambiance de la ville et par le climat un peu violent qui précède parfois les matchs de football, qui ensuite, les matchs de football se déroulent toujours sans violence, mais là, le préfet, tellement impressionné, va jusqu'à interdire pendant quelques heures le port du maillot du Paris Saint-Germain dans les villes dans les rues de Marseille. C'était une aberration. Et c'était un recul incroyable de la part, pour le coup, du représentant de l'État. Je n'ai pas entendu les élus marseillais protester contre cette décision-là, qui était pourtant prise par un préfet représentant de l'État. Vous voyez, on mélange un peu tout, et quand même toujours sur ce versant-là, c'est-à-dire l'anti-Paris, le sentiment anti-Paris qui flatte les mauvais instincts marseillais.
J'ai une petite gêne médiapolitique, puisqu'on est dans Mediapolis, c'est que il y a vraiment deux thèses qui sont confrontées sur cette histoire de décision prise de Paris, au-delà de tout ce qu'on vient de dire. Vous avez d'un côté donc les deux élus marseillaises qui mettent en cause une décision sans concertation, et vous avez eu en contre immédiat quasi le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui a déclaré qu'il y avait eu absolument la concertation préalable avant la décision. Et je trouve que dans ces cas-là, quand vous avez vraiment deux versions radicalement opposées d'un même fait, la presse devrait faire son travail, enquêter et nous dire lequel des deux nous raconte des bobards.
D'ailleurs, Olivier Véran est allé à Marseille.
Bien sûr.
Et Renaud Muselier a boudé sa visite.
Oui.
C'est pas là qui est le président.
J'entends bien. Mais je regrette que la réalité n'ait pas été établie derrière par une enquête journalistique indépendante, puisque vous vantiez en début d'émission, cher Hervé Gattegno, cette nécessaire indépendance. Alors... au-delà de ça, il y avait la question, est-ce que, pour Castex, Jean, Premier ministre, l'état de grâce est terminé ou pas ? Réponse possible dans quelques instants.
Europe 1, Mediapolis. Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Hervé Gattegno, vous êtes directeur des rédactions.
Oui.
Et donc du JDD.
J'ai de Paris Match.
Oui, mais pour ce que je vais dire du JDD.
Je vous écoute.
Je vais vous poser une colle.
Allons bon.
Dimanche dernier, le JDD publie un sondage IFOP sur la satisfaction à l'égard du Premier ministre. Choc, Castex, 45%, 7 points de perdu pendant l'été. Et partout, on dit fin de l'état de grâce. Dans la semaine, BVA Orange RTL publie avant-hier, pour être précis, sondage, bonne opinion, Castex, 55% stable, Macron, 44%, plus 5. Comment est-ce que Castex peut avoir une bonne opinion stable et élevée chez BVA et perdre 7 points chez IFOP. Voilà la colle.
Bah alors ça, c'est pas une colle que vous posez aux journalistes que je suis. Il faudrait poser cette colle au directeur des instituts de sondage. Je me suis posé, figurez-vous, la même question en découvrant le sondage de BVA que j'ai regardé. Et c'est encore plus troublant que vous ne le dites, Olivier, parce que nous, dans notre sondage, donc le baromètre de l'IFOP publié la semaine dernière, on constatait que c'était surtout à droite que Jean Castex perdait du terrain. Et là, il semble que...
moins 26 points chez les électeurs de François Fillon.
Voilà, et il semble que à droite, Jean Castex, dans l'indice de BVA, soit plutôt consolidé. Donc, effectivement, il y a là une contradiction que, à votre grand plaisir, je ne sais pas résoudre.
Mais avec le talent qui vous caractérise, vous avez renvoyé la balle vers les sondeurs et politologues. Il se trouve que c'est mon métier d'être politologue et que j'ai longtemps été conseiller de la Sofres, feu la Sofres devenue Kantar. J'ai un élément d'explication. C'est que, pensez bien que si je vous pose une colle, j'ai préparé mon coup, il faut quand même, n'est pas prof pour rien. Bon, c'est que la question IFOP, elle porte sur la satisfaction. Et la question BVA, elle porte sur la bonne opinion. Et vous pouvez très bien avoir une bonne opinion de telle ou telle personnalité, mais être insatisfait parce que le chômage pointe, parce que le virus ne se calme pas, etc., etc. C'est un élément d'explication.
Oui.
Ça vous convient aussi, Catherine ?
Oui, ça me convient aussi, surtout que vu le climat actuel, il y a peu de gens satisfaits parce qu'il y a trop de peur ambiante et trop d'incertitudes sur l'avenir. Alors tout ça, ça explique très bien.
J'ajouterais un tout petit mot que pour un Premier ministre qui débute et qui est très largement inconnu des Français, il avait démarré assez haut, Jean Castex. Dans notre indice, il était donc au début à 55%, et c'est le score auquel il se retrouve aujourd'hui dans l'indice de BVA. C'est un score qui, quand on regarde toute la Ve République, n'est pas si habituel que ça, et donc a fortiori pour quelqu'un qui est inconnu. Donc on peut
pas a fortiori, c'est un atout d'être inconnu dans le monde dans lequel on vit.
Oui. Aujourd'hui, oui ou non, parce que certains étaient inconnus et avaient des scores. Raymond Barre, qui n'était pas tout à fait inconnu, quand il est devenu Premier ministre, je crois qu'il a démarré à 18 ou à 20%. Donc il était très loin de tout ça. La question qui est posée à un Premier ministre qui débute et qui est très largement inconnu, c'est de savoir s'il gagne à être connu ou pas. De ce point de vue-là, quand je vois qu'après un été passé à se déplacer et à faire des interventions médiatiques, Jean Castex perd 7 points dans notre indice, je m'inquiète pour lui et je me dis peut-être que les Français ne vont pas considérer qu'il gagne à être connu.
Quand je vois qu'il garde une bonne opinion, je m'inquiète moins pour lui.
C'est vrai.
Alors, question satisfait, puisqu'on parle des satisfaits. Il y en a un qui est assez satisfait de lui-même. C'est le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. On l'écoute à l'université d'été. C'était dimanche dernier.
Jeunes gens, on n'en dit pas. Ce pays dépend de vous. Et c'est le moment de vous emparer de ce qui compte, c'est-à-dire de cette capacité de tout changer de fond en comble. On doit tout changer de fond en comble. Voilà la ligne sur laquelle nous sommes.
Ça s'était envoyé. Alors, il y a une chose qui m'a frappé dans son discours et qui n'a pas frappé les médias, qui ne l'ont quasiment pas relevé. Et une chose qui a frappé les médias et qui ne m'a pas du tout
frappé...
Heureusement
que tu es là, parce que tu relèves des choses qu'on ne relève pas.
Et c'était... Évidemment, ça, la reprise Max, c'était sur sa phrase selon laquelle il ferait connaître sa décision au mois d'octobre. Alors, il ferait connaître ça. C'est la seule chose qui intéresse dans l'obsession de la présidentielle. En plus, très franchement, le suspense est quand même extraordinairement faible. Hein, oui. Voilà, très très faible. En revanche, il a fait une grande tirade louant les révoltes qui couvent ou qui explosent de peuples à travers le monde. Et il a évoqué la Libye, et il a évoqué le Mali, et il a évoqué l'Algérie, et il a évoqué le Maroc, et il a évoqué, sauf erreur de ma part, et je crois qu'il n'y en a pas, le Liban, et pas un mot sur la Biélorussie. Pas un mot sur la Biélorussie, et personne, quasiment, n'a relevé ça, alors que c'est quand même énorme. Pourquoi est-ce que... vous connaissez les médias, puisque vous direz, pourquoi ça n'intéressait pas, ça, cette espèce d'angle mort, de ne pas pouvoir dire du mal, de ne pas pouvoir avoir l'air de critiquer le dictateur ?
Je ne sais pas répondre à cela. Moi-même, je n'avais pas relevé ce passage parce que je n'ai pas écouté son discours en direct. J'en ai lu des extraits, mais c'est vrai que ça ne m'avait pas frappé. Quand vous le dites, c'est à la fois frappant, ça mérite d'être relevé, et peu surprenant quand on songe que Jean-Luc Mélenchon n'arrive pas depuis des années à trouver des mots sévères ni sur le régime chinois ni sur le régime russe, qui pourtant ne sont pas des régimes identiques, c'est peu dire. Mais je pense qu'il y a chez Jean-Luc Mélenchon une forme de fascination pour des régimes qui sont un peu autoritaires. Ce qui est troublant, c'est qu'il lui arrive de défendre avec des mots choisis le nationalisme nationalisme russe incarné par Vladimir Poutine alors qu'il se dit internationaliste. Il est en pleine contradiction, mais je pense que c'est une constante chez lui, cette forme de fascination qui tourne parfois à la complaisance. Et en effet, je crois qu'on aurait grand peine à trouver des mots sévères de Jean-Luc Mélenchon depuis 15 ans sur le régime russe, comme sur le régime chinois. Et sur le régime chinois, ça lui avait été reproché dans un de ses livres. Il lui avait même été reproché de d'écrire des choses extrêmement favorables au régime
chinois. Mais je trouve que c'est encore plus frappant là, au moment où il vote des révoltes populaires.
Oui.
Et s'il n'y a pas de révolte populaire massive en Chine. Et là, on voit
dans
tous
l'actualité,
les jours.
C'est vrai que c'est ce qu'on l'a voit.
Mais vous avez remarqué qu'il ne cite plus le Venezuela.
Non.
Oui.
Comme étant aussi un grand modèle, parce qu'il a tellement vanté Chavez et le vraiment...
Et Maduro, oui.
Et Maduro, et que maintenant, vu l'état du pays, il n'en parle plus et même il renie ses amours passés.
Mais c'est ce qui nous préoccupe chez ce grand républicain que reste, à mes yeux, Jean-Luc Mélenchon, c'est que la constante de tous ces discours qui peuvent paraître contradictoires, c'est une forme de complaisance avec les régimes autoritaires.
Eh bien, au moins, on l'aura dit ici à Mediapolis.
Moi, ce que je voulais dire sur lui, c'est qu'il n'y a pas de suspense, parce que il est dans... son exemple, c'est Mitterrand, dont il dit qu'il a été élu à la troisième fois. Lui, il a déjà échoué deux fois. Il pense que la troisième sera la bonne. Et puis, moi, ce qui m'a frappé, c'est le culte de la personnalité. Parce qu'il y avait des militants de France Insoumise qui avaient des t-shirts où il y avait écrit « Ma personne est sacrée », vous vous souvenez, ou « La République, c'est moi ». Donc, ils sont très contents d'avoir ce genre
et
de...
Et il se l'approprie ce qui avait été
Mélenchon veut tout changer, voilà. Sauf Mélenchon.
Voilà.
C'est un mot pour conclure cette phase. Et on revient en France avec le mot, le sujet... du jour, de la semaine, du mois, du trimestre, de la pandémie, les masques dans deux minutes.
Europe 1, Mediapolis. Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Hervé Gattegno, est-ce que vous aimez porter le masque ?
Non.
Non, vous n'aimez pas porter le masque.
Comme vous, je n'aime pas porter un masque. On doit un peu apprendre à vivre avec ça. C'est gênant, c'est pénible, les gestes barrières... Nous qui sommes plutôt un peuple latin ne sont pas naturels dans nos habitudes, mais je pense que c'est une contrainte qui est raisonnable, que nous devons accepter pendant un temps, parce qu'elle permet de ralentir la circulation de ce virus, et justement elle permet à l'activité économique de repartir dans de bonnes conditions.
C'était hier sur Europe 1, le président de la République qui répondait à la question que... exactement, qui reprenait la réponse de Hervé Gattegno le lendemain. C'est ça qui est bien avec les sons à la radio et les montages et Jean-Luc Arblat, c'est qu'on peut faire répondre hier Emmanuel Macron à Hervé Gattegno aujourd'hui. Après discussion et débat, c'était un débat qu'on a eu d'ailleurs hier sur LCI, je suis arrivé à une analyse que je trouve, du point de vue médiapolitique, significative par rapport au nombre d'experts qui disent scientifiquement que le masque à l'extérieur ne sert à rien, politiquement, au sens le plus large et noble de ce terme, le masque sert énormément. Parce qu'il a pour fonction, et le spécialiste médical qui était là a prouvé, il a pour fonction de faire comprendre aux gens la remontée de la pandémie, de faire comprendre la nécessité de la distanciation physique, de faire comprendre qu'on ne peut pas faire des fêtes n'importe comment en se serrant les uns comme les autres, et que c'est en leur imposant cette contrainte à la fois forte et incroyablement visible du masque, que le masque, il n'est peut-être pas médicalement utile, mais il est sociétalement indispensable. Qu'est-ce que vous pensez de cette...
Oui, je suis d'accord. J'ajouterais même que, parce que là, vous traitiez au fond le point de vue de ceux qui l'imposent à la population, je trouve que du point de vue de ceux à qui cette mesure est imposée, il y a aussi un signe d'appartenance à une société qui collectivement fait face à une épreuve très difficile. Donc il y a un signal de cohésion qui est envoyé. Et pour ma part, je pense que c'est l'explication de ces regards réprobateurs et parfois même de ces critiques très véhémentes qui sont exprimées par des gens qui portent le masque envers ceux qui ne le portent pas. Au fond, tout le monde n'est pas à plat ventre devant la communauté scientifique en pensant que c'est l'alpha et l'oméga de la lutte contre l'épidémie, mais tout le monde trouve que c'est le signe de l'appartenance à une collectivité qui fait face.
Ouais.
Moi, je suis d'accord, mais je dirais aussi qu'il y a quand même une utilité parce qu'aujourd'hui, on a une expérience, c'est le département de la Mayenne, où il y a eu, comme ce qui a été une sorte de cluster à lui tout seul, et auquel on a imposé à ses habitants eh bien, ces mesures barrières, c'est-à-dire le port du masque obligatoire, et puis se laver les mains très souvent. D'ailleurs, il faut continuer, ça, c'est très, très important. Eh bien, on a vu que le virus, enfin, il transportait moins de virus. Voilà.
C'est très, très juste, Catherine, parce qu'on nous parle souvent de l'exemple magnifique asiatique, de la formidable réussite à Taïwan, à Singapour, en Corée du Sud. Maintenant, on dit en Chine, regardez, c'est génial, l'épidémie est complètement terminée. Mais chez nous, en effet, il y a un exemple dont on doit parler plus souvent et que vous avez raison de souligner, c'est celui de la Mayenne.
Merci, Olivier.
Non, non, mais je vous remercie de me remercier, mais au-delà de ces petits plaisirs réciproques, c'est fondamentalement vrai. C'est-à-dire que quand on a chez nous une expérience qui a fonctionné pour faire reculer un virus qui, là, pour le coup, on pouvait dire exploser de façon exponentielle, voilà, et bah, autant s'en inspirer.
C'est pas un virus qui circule, c'est des gens qui le transportent. Hein,
alors, il reste quand même quelque chose, alors pour le coup, qui vraiment ne fonctionne pas, c'est cette histoire de décision qu'on change d'heure en heure. Parce que ce qu'on a vécu avant-hier et hier à Paris, et puis avant, vous l'évoquiez pour Marseille et les histoires des maillots du PSG, ce qu'on a vécu à Paris, l'annonce du port obligatoire du masque pour tout le monde, à l'extérieur, y compris en vélo, y compris les joggeurs, y compris ne plus fumer à l'extérieur. Et puis après, ah ben non, finalement, finalement, les joggeurs et les cyclistes, ils font un effort physique qui est incompatible avec le masque, donc eux, ils ont le droit de ne pas mettre le masque.
Oui, mais c'est vrai.
Et puis après, oui, non, mais c'est vrai, mais évidemment que c'est vrai, mais c'est quand même complètement... Complètement, quel mot utiliser ? Complètement con ? Complètement
crétin.
C'est mieux.
Là, Jean Castex a dit un mot, il a dit, vous savez, c'est une crise, c'est un prototype. Donc, franchement, aujourd'hui, les gouvernants, partout dans le monde, pour imposer des choses, eh bien, qu'il y ait des tâtonnements et qu'il y ait des changements. Moi, ça ne me choque pas du tout. Il faut arrêter de critiquer pour tout ça.
Ah, c'est génial. Non, mais Catherine, tu vas défendre le gouvernement.
Non, mais je ne défends pas le gouvernement.
Catherine a raison.
C'est vrai que c'était idiot.
En France, il n'y a qu'en France qu'on trouve ce niveau de critique systématique du gouvernement et de l'État dans la prise de décision face à une épidémie complètement inédite. Ce qui prouve une chose, c'est que le virus n'a pas tué le tempérament français.
C'est pas du tout systématique, en tout cas de ma part. Je ne vous autorise pas à le dire. Et je vais vous dire à quel point je suis en désaccord avec vous. Mais je ne vais pas vous le dire tout de suite, parce qu'il faut que j'y réfléchisse encore un peu. Donc je vous le dis dans deux minutes.
Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Nous avions donc un différend avec d'un côté Catherine Ney et Végatenio qui comprenait et donc d'une certaine manière excusait les tâtonnements du gouvernement dans une situation où le virus est encore largement méconnu, change tout le temps. Et d'autre part, mon point de vue qui est largement d'accord avec eux en son principe, mais absolument pas dans l'affaire des obligations de masques sur Paris. Parce que là, on ne peut pas dire qu'en 24 heures, quoi que ce soit ait changé. Les données étaient exactement la même. On nous a expliqué en long, en large et en travers que les décisions devaient être prises sur le terrain, qu'elles devaient être prises par duo préfet élu. Et là, manifestement, il y a eu une décision préfectorale, puis une réaction des élus, puis une autre décision préfectorale. Alors que si la concertation avait soigneusement été organisée avant, on aurait eu tout de suite une seule décision éclair. Et très franchement, pour les Français, pour la compréhension des choses, pour la confiance qui est indispensable, mieux vaut d'emblée une décision claire et expliquée que ce va-et-vient.
Oui, mais entre-temps, qu'est-ce qui a changé ? C'est la progression exponentielle du virus et des cas positifs.
Mais donc, pas entre jeudi et vendredi, sur l'histoire des vélos et tout, pas entre jeudi et vendredi.
Ah oui, non, mais ça sur les vélos, d'accord. Ah. Mais enfin, ça a été fait tout de suite parce qu'on a vu que c'était idiot, que c'est une aberration. Bon. Donc moi, je trouve au contraire, c'était idiot de le dire, mais c'était bien de changer d'avis tout de suite.
Non, mais vous venez de dire que vous étiez d'accord avec moi, maintenant vous n'allez pas changer d'avis pour dire que finalement vous n'êtes pas d'accord avec moi, alors que j'étais content que vous soyez d'accord avec moi.
J'espère que nos auditeurs suivront.
Et avec Gattillo, donc nous sommes d'accord quand même.
Oui et non. Moi, je suis d'accord que c'était une mauvaise décision. Et donc, ils ont bien fait de la rapporter en quelques heures. Mais je ne suis pas d'accord avec vous, Olivier, pour dire que ça suffit à saper complètement la confiance de la population française dans les autorités face à l'épidémie. Ça n'est pas très grave. Et je maintiens qu'il n'y a qu'en France, en tout cas parmi les pays européens qui sont confrontés à la même situation que nous, il n'y a qu'en France qu'on monte systématiquement en épingle tous ces incidents qui ne sont jamais que des incidents, même si ce sont des mauvaises décisions. Et donc, ça n'est pas très grave. Ça ne nuit pas, me semble-t-il, à l'ensemble de la politique sanitaire qui est conduite depuis des mois, avec en effet des tâtonnements et de très grandes difficultés, bon, parce que même les spécialistes de la santé ne sont pas toujours d'accord entre eux.
Pleinement d'accord avec tout ça. Donc, compromis, ça n'est pas très grave, vous avez raison. Ça nuit un tout petit peu.
Oui, ils auraient mieux fait de prendre dès le début la bonne décision.
D'accord. Bon, ouf, voilà, c'est difficile. Hein.
On y arrive.
On y arrive, mais il y a un autre truc. Alors là, pour l'instant, on n'y arrive pas. Ça n'a aucun rapport, mais on n'y arrive pas de chez pas, de chez pas. C'est non seulement trouver quel sera le candidat de la droite à l'élection présidentielle de 2022, mais même comment faire pour le choisir, ce dit candidat. Écoutez ce qu'en pense le député LR de l'Oise, Éric Woerth, qui était au micro de Sonia Mabrouk, mercredi matin sur Europe 1.
Est-ce qu'il y a vraiment un candidat naturel chez les Républicains?
Non, il n'y a aucun candidat naturel. D'ailleurs, il n'y avait aucun candidat naturel à gauche en 2017. Donc, je pense qu'à un moment donné, c'est une décision personnelle. Donc, un tel ou un tel, il prend du temps.
Il y en a beaucoup, un tel ou un tel. François Baroin, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Bruno Retailleau. D'ailleurs, vous pourriez en être aussi.
Bien sûr, et d'autres.
Ah bon, bien
donc,
sûr.
Donc, il y a plein de gens qui ont du talent, qui sont capables et qui ont eu beaucoup d'expérience, qui ont beaucoup de responsabilités.
Mais à la fin, il en faudra
un ou une. Il faut le choisir.
En passant par la primaire, vous n'avez pas le choix.
Je crois que c'est pas mal, les primaires. Il faut juste les réorganiser.
Alors, d'abord, ce qui est intéressant, c'est suivre le parcours dans la doxa médiapolitique sur les primaires. En premier temps, les primaires, c'est formidable. Tout le monde fait des primaires. Deuxième temps, il y a le foirage de l'élection présidentielle de 2017. Les primaires, c'est épouvantable. Et alors, les primaires, c'est épouvantable, sauf que c'est quand même pas la primaire qui a tué François Fillon, c'est même tout le contraire. C'est François Fillon qui a tué François Fillon, juge aidant, après la primaire. Ça n'a donc aucun rapport avec la primaire. Mais voilà, c'était devenu les primaires, c'est épouvantable. Troisième et dernier temps, là, changement de la petite musique dominante. Il va bien falloir un seul candidat, et même un seul, pas seulement républicain, un seul républicain et ex-républicain, un seul entre Le Pen et Macron, et comment est-ce qu'on va faire pour le choisir? Peut-être qu'il ne faut pas le mot, mais il faut la chose. Et ça va se finir comment? Vous avez des grandes capacités de prédiction, Catherine.
Oui, et en l'occurrence sur le sujet, pas du tout, et surtout que je ne me pose aucune question. Trop tôt.
Point sur lequel moi je vous ai écouté avant cet été, entendre en tout cas vos très 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 grands doutes sur le fait que François Baroin soit candidat, et au moment où vous disiez ça, la doxa, comme je dis, le discours dominant était exactement inverse. Ça va être Baroin, ça ne peut être que Baroin, et je pense que vous allez peut-être avoir raison.
Parce qu'une candidature, c'est d'abord le désir d'un homme. C'est quelqu'un qui porte cette envie de présider la France dans toutes ses tripes, que c'est quelque chose qui le dépasse, même son intelligence, son entendement, c'est plus fort que lui. On a vu ça, c'était vrai pour Nicolas Sarkozy, par exemple. On ne sent pas du tout.
Pour votre ami François Mitterrand aussi.
Pour Jacques Chirac.
Très intéressant, oui. Parce que elle n'existe pas. Et moi, je dis, il faut mettre la loi Catherine Ney.
Il y a un désir.
La condition du désir.
Et la condition du désir. Et la deuxième chose, de l'énergie physique. Je veux dire, aujourd'hui, un homme politique, dans les circonstances actuelles, avec le tel que va le monde, il faut être increvable. Et c'était vrai pour Jacques Chirac à un moment. Et prêt à prendre tous les coups, surtout. Aujourd'hui, et c'est quand il y a ce désir, cette énergie qui passe, que vous ralliez des gens et que la candidature se fait presque naturellement. Bon, mais aujourd'hui, dans tous ceux qui pourraient l'être, vous ne sentez ni l'un ni l'autre, ni un désir profond.
Même chez Bertrand ?
En tous les cas...
Le désir, si, chez Bertrand.
Le désir, c'est, Xavier, mais en tous les Bertrand. Cas, il n'est pas encore communicatif, vous voyez. Bon, voilà. Mais je veux dire, c'est ça le problème.
Je suis absolument d'accord avec la condition, avec ce que vous appelez le théorème ou la loi de Catherine Ney. C'est une condition absolument nécessaire, mais évidemment non suffisante. Il faut absolument ce désir ardent, souvent très ancien, et il est probable qu'Emmanuel Macron, même s'il le dissimulait, éprouvait depuis longtemps ce désir. Ça ne suffit pas. Il faut en effet être très résistant, il faut être très motivé, il faut être capable d'endurer tout toutes les épreuves qu'une campagne impose. Et dans ce que vous disiez, vous, Olivier, sur la primaire, alors là, je vous rejoins entièrement. Ce n'est pas la primaire qui met la droite en ce moment dans cette forme d'impasse. C'est la médiocrité de la plupart de ses prétendants. J'entendais en souriant le petit extrait d'Éric Woerth devant Sonia Mabrouk disant « bah oui, il y a beaucoup de gens qui ont du talent ». Ben non, à l'heure actuelle, à droite, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont du talent et pas assez pour faire une écurie présidentielle. Et donc, au fond, aujourd'hui, on est dans la situation inversée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme l'a dit Catherine, une candidature qui s'impose d'elle-même parce que ce désir ardent et toutes ces compétences et ce charisme sont rarissimes. Et il n'y a qu'un groupe, j'allais dire une bande de prétendants relativement médiocres qui font qu'avec ou sans primaire, de toute façon, la droite, pour l'instant, n'est pas en état de produire un formidable candidat.
Alors, une bande de prétendants relativement médiocres, je ne peux pas enchaîner directement avec un son parce que ce serait très désobligeant. On va donc faire une petite pause.
Europe 1, Mediapolis. Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Un des prétendants, Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, revenait sur les violences qui ont émaillé cet été jeudi.
C'est un été orange mécanique, avec une violence gratuite qui nous a toutes et tous profondément marqués. Nous devons absolument casser cette spirale de la violence, qui ne date pas seulement d'il y a quelques semaines. C'est une dérive en profondeur, c'est une crise de l'autorité, du respect de l'autorité. Nous avons trop d'individus dans notre pays qui ont un tel sentiment d'impunité qu'ils se croient tout permis. Or, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a de la peur, il y a du repli sur soi, et il y aura aussi, si on ne fait pas attention, de l'autodéfense. Ça, c'est la fin de la République, c'est la fin de l'État.
C'est assez étonnant de prendre comme image Orange Mécanique, qui est un vieux film qui nous laisse donc entendre que rien de neuf sous le soleil pour dire que ça s'aggrave. Catherine Ney, sur la violence, l'insécurité.
Sur la violence qui s'accroît, ça c'est une vérité, mais ce qui crée le sentiment d'impunité chez les Français aussi, c'est que quand vous voyez par exemple des gilets jaunes qui ont cassé, brûlé, on se dit il ne se passe plus rien, on n'entend plus rien. Mais si, je veux dire, ça prend du temps. Et beaucoup, il y a des procès, beaucoup ont été poursuivis, ont été sanctionnés, ont eu des amendes, même très fortes. Mais je veux dire, la presse qui fait tellement état et la télévision qui montre les exactions, les voitures brûlées, dès qu'il y a une décision de justice qui est quelquefois même lourde pour certains, on n'en parle plus. On ne donne pas les noms des gens. Donc, alors que moi, je trouve, bon, parce que c'est vrai que quelqu'un qui a pris une audience et avec son micro raconte ce qui se passe, ça ne se passe pas à la télé parce qu'il n'y a pas d'image, parce que ce n'est pas illustratif. Donc là aussi, il y a le renseignement. Enfin, je trouve que l'information est mal faite. Et c'est ça aussi qui fait peur aux gens, c'est qu'on ne sait pas que la justice sanctionne aussi.
Très juste.
Peut-être pas assez, mais elle sanctionne.
On mentionne, parfois, je ne peux pas dire systématiquement, mais la presse écrite, la presse quotidienne,
oui, mentionne régulièrement. Mais ça ne fait pas l'image visible. Elle a raison.
Et à la télé, les gens qui suivent...
C'est image spectaculaire contre pas d'image.
Le soir à la télé, jamais on leur dit.
Bien sûr.
Il n'y a pas un journal qui le leur dit.
Et vous avez raison.
Même pas une chaîne en continu.
Je défends évidemment la presse écrite, non pas parce que j'en suis, mais parce que néanmoins, elle fait une partie de ce travail. Mais ce qui est vrai et inéluctable, c'est que ça n'a pas le même caractère spectaculaire, a fortiori parce que les images de télé dont vous parlez sont relayées en plus par les réseaux sociaux qui donnent une caisse de résonance à ces violences incroyables.
Absolument, analyse indispensable. Alors on ne va pas faire comme Mélenchon ici, on va quand même, comme avant-dernier sujet, évoquer la Biélorussie et Alice Baudry, qui dirige la communication et le marketing de l'Institut Montaigne et surveille les médias internationaux pour nous, a repéré un article intéressant sur le sujet. Elle nous dit que la Biélorussie est devenue méconnaissable, que des centaines de milliers de personnes se sont déplacées pour protester contre le président Alexandre Loukachenko et la violente répression. Dans les villes, le drapeau national officiel a été remplacé par le drapeau blanc et rouge historique de la Biélorussie. Les fleurs et les ballons sont des symboles courants de la résistance pacifique. Pour un article de The Atlantic cette semaine, à certains égards, les scènes en Biélorussie rappelle des exemples étrangers. Les rassemblements spontanés, décentralisés, ressemblent au mouvement pro-démocratie à Hong Kong. Comme celle de Hong Kong, les manifestations en Biélorussie ont été réprimées de façon violente. Des milliers de personnes, dont des journalistes, ont été arrêtées, Au moins 2 personnes sont mortes. Les informations faisant état de tortures et d'abus de la part des forces de sécurité sont très répandues. Par ailleurs, les chaînes de solidarité qui ont lieu mettent en vedette des milliers de Biélorusses vêtus de blanc, ce qui rappelle les manifestations de la chaîne humaine lors du mouvement d'indépendance de l'ère soviétique en Baltique, dans les pays baltes. Même l'absence de chef des manifestations reflète celle d'autres manifs lointaines de France, de Catalogne, de Chili, d'Inde, d'Irak, du Liban, des États-Unis. C'est toujours The Atlantic hein, qui parle. Ces approches qui se chevauchent sont emblématiques d'une tendance mondiale dans laquelle le mouvement populaire d'un pays adopte les meilleures pratiques des autres. Les tactiques sont similaires, même s'il y a des nuances. Et une différence pour cet article est que les Biélorusses n'ont peut-être pas le même temps à consacrer à ces manifs que les Gilets jaunes ou les Hongkongais, parce que, comme d'autres économies, le pays était très durement touché par le Covid. Et donc, ceux qui sont en grève aujourd'hui ne peuvent pas continuer éternellement. Et c'est l'argument qu'utilise Loukachenko, qui a déclaré « Ne tuez pas votre avenir, celui de vos enfants, de vos propres mains. La chute du premier président signifiera le début de votre fin. » Menace terrifiante. C'est un risque que pourtant certains manifestants sont aujourd'hui encore prêts à prendre. Et voilà pourquoi il faut suivre ce mouvement populaire en Biélorussie et en parler, Monsieur Mélenchon. Autre et dernier sujet de la semaine, les dix petits quoi ? Vous savez bien, dans 2 minutes. Les dix petits nègres, un des romans les plus vendus et lus à travers le monde depuis des décennies d'Agatha Christie. Côté pile, la France était un des derniers pays à avoir gardé ce titre. Il est donc normal de le changer. Nègre, c'est devenu le symbole d'une insulte et d'un propos raciste. Il était donc normal de le changer. L'arrière-petit-fils est titulaire du droit moral sur l'œuvre. Il est donc légitime qu'il puisse décider. Côté face, où s'arrêtera-t-on dans le gommage de l'histoire? Où s'arrêtera-t-on dans le ridicule? Les dix petits nègres, c'était une comptine et en l'espèce, il n'y a pas de nègre dans le récit d'Agatha Christie et c'est le nom de l'île, ça n'a rien de raciste, tout ça est ridicule et il faut arrêter. Pile ou face? Côté face, Emmanuel Pierrat, avocat spécialiste du droit littéraire, invité de Julien Bugier dans Europe Soir, mercredi.
Effacer d'un seul coup ce titre et faire comme si cette histoire n'avait pas existé ne me semble pas nécessairement la meilleure solution.
Mais vous savez que nos amis britanniques l'avaient déjà modifié en 80. Les derniers à continuer à l'utiliser.
Il y a une différence entre un classique de la littérature qui est dans le domaine public et les œuvres d'Agatha Christie qui sont gérées par un trust, dirigées par quelqu'un qui suit le vent dominant avec des questions commerciales. Ça ne veut pas dire que son point de vue est illégitime. C'est simplement que ses motivations, le petit-fils d'Agatha Christie, ne sont pas des motivations, on va dire, philanthropiques ou humanitaires ou pour ramener la paix dans le monde. Pensez.
Arrière, petit-fils, pas petit-fils. Julien Bugier, pas Julien, qui est revenu sur Europe 1. Et donc, face à ça, ça vous a fait quoi, cette histoire des petits nègres dans votre tête critique, Catherine ?
Ben moi, je me souviens que quand j'étais jeune, mon gâteau préféré, c'était les têtes de nègres, c'est-à-dire une meringue constellée de pépites de chocolat. Et qu'aujourd'hui, un pâtissier qui afficherait tête de nègre aurait une grosse amende. Et vous savez qu'il y a des gens qui passent pour vérifier. Hein ? Bon. Moi, mon morceau de bravoure au piano, c'était le petit nègre de Debussy. Je ne le joue plus, non pas parce que je veux éviter le nègre, c'est parce que je ne sais plus le jouer. Mais moi, je préfère, vous voyez, quand Nicolas Sarkozy citait un président du Sénégal, dont j'ai oublié le nom, mais c'était du temps de Nicolas Sarkozy, quand il était venu faire son discours de Dakar, où il avait donné des leçons à l'Afrique.
Ouad, peut-être.
Voilà, le président Ouad. Et qui n'avait pas été entré dans l'histoire, c'est-à-dire que Nicolas citait le discours d'Henri Guénaud qu'il n'avait pas eu le temps de lire dans l'avion. Eh bien, le président Ouad avait dit que, franchement, c'était le nègre qui avait trahi. Il avait été trahi par son nègre. Et j'avais mieux aimé cet humour, vous voyez, que voilà, c'est...
Alors moi, je ne suis que partiellement d'accord avec vous. C'est-à-dire que, dit petit nègre et tout, je serais plutôt du côté d'Emmanuel Pierrat. En revanche... sur la pâtisserie ou sur Yabon Banania, c'est-à-dire sur des choses qui étaient quand même vraiment rabaissantes, je trouve que c'est normal qu'on ait arrêté les pubs Yabon Banania.
Moi, j'avais pas l'impression de faire un acte cannibale. Oui.
Non, mais alors, personne ne va jusque-là. Et alors vous, Hervé?
Mais moi, je dirais que à titre principiel, ça ne me choque pas que...
À titre principiel, ça veut dire en son principe, ça.
Oui. Ça ne me choque pas qu'on débaptise des pâtisseries, des slogans publicitaires, parce que finalement, le vent de l'époque a changé et qu'on considère que c'est devenu aberrant, voire insultant pour telle ou telle catégorie de population. En revanche, ça me surprend et dans une certaine mesure, ça me choque que l'on débaptise des œuvres d'art, parce qu'une œuvre d'art, elle naît, elle éclot à un moment donné, à une époque, et d'une certaine façon, elle témoigne d'une époque. Est-ce qu'on imaginerait que dans un siècle, si finalement, pour telle ou telle raison, on n'a plus le droit d'appeler une femme Joconde, qu'on n'ait plus le droit d'appeler le tableau Joconde, la Joconde? C'est complètement absurde. Vous l'avez dit, Olivier, en commençant, nous sommes plusieurs générations qui avons lu ce roman d'Agatha Christie quand on était enfant ou quand on était très jeune. Pour nous, ça s'appellera toujours Dix Petits Nègres. Ça ne fait pas pour autant de nous des racistes, évidemment. Et donc, l'intolérance, c'est un mal qu'il faut absolument combattre dans les sociétés démocratiques. En général, on le combat avec le débat et parfois avec des interdictions. Mais il y a un mal presque aussi grave, c'est l'intolérance rétrospective. Parce que contre celle-là, on ne peut rien. Je ne peux pas être, moi, aujourd'hui, intolérant vis-à-vis d'Agatha Christie, qui elle-même, je crois, en 1940, avait regretté d'avoir utilisé ce titre. Il n'empêche que pour moi, ça s'appellera toujours Dix Petits Nègres et je ne suis pas raciste pour autant.
Refusons l'intolérance rétrospective. Ce sera le mot de la fin grâce à Hervé Gatillon. De la fin, pas tout à fait, puisqu'on finit toujours par une chanson. Et donc, il y a un autre sujet de la semaine. Si on avait fait un des vrais sujets de Mediapolis, on nous serait tombé dessus. Comment vous traitez des sujets aussi frivoles? Si on n'en dit pas un mot, on nous dira « Mais comment vous n'avez pas dit un mot d'eux ?» De toute façon, c'est le débat, c'est la tolérance. Donc, pour la chanson, Jean-Luc Arblade, qui, vous savez, a l'esprit comme ça, taquin de temps en temps, il s'est dit « La rentrée se profile, la petite polémique a émaillé la fin des vacances ». L'intervention des gendarmes à Sainte-Marie-de-la-Mer auprès de deux femmes dont leur bronzage seins nus heurterait la sensibilité des familles. Alors, pour remédier à cette intolérance croissante, pas rétrospective celle-ci, mais présente, remémorons-nous les paroles du grand Serge Gainsbourg en 1978, autre temps, autre mœurs.
Sex and sun. Des petits seins de Paquita. Le soleil au zénith.
Merci à tous, merci à Catherine Ney. Malheureusement, à la radio, vous n'avez pas pu voir son sourire en entendant Gainsbourg parler de tes petits seins, de la bakélite. Comment ça? Si, vous
non,
avez
non,
un joli sourire.
Je riais pour autre chose, parce que pas du tout.
Mais vous riez pour autre chose, très bien. Rions ensemble. Merci à Hervé Gatignon, notre invité,
merci
à Jean-Luc Arblade, qui a réalisé l'émission, à Capucine Patouillet, qui l'a préparée. On se retrouve la semaine prochaine.